Merci d'écouter RFI. Un nouveau point sur l'actualité en direct de Paris où il est 1h.
Mathis Limano.
À la une, pas de négociation de paix sans l'Ukraine et les Européens. Volodymyr Zelensky ce vendredi à Munich lors de la conférence sur la sécurité. Le président ukrainien d'accord pour des négociations avec Moscou, mais Kiev et ses alliés doivent parler d'une seule voix, dont les États-Unis. L'onde de choc ne retombe pas après l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, notamment chez les Européens qui tentent de revenir dans la danse diplomatique. Sur le champ de bataille, la situation s'améliore dans l'Est, se réjouit Volodymyr Zelensky. Les combats restent intense autour de Pokrovsk, que vous allez l'entendre. Et puis aux États-Unis, la purge dans l'administration fédérale bat son plein. 200 000 fonctionnaires sont concernés.
RFI.
L'avenir de l'Ukraine au cœur de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne. Les annonces de Donald Trump sur l'ouverture de négociations avec Vladimir Poutine ont pris de court les Européens qui craignent d'être tenus à l'écart. Passé le choc, les dirigeants de l'UE essayent de revenir dans le jeu, Julien Chavanne.
Ils le répètent, rien ne pourra se faire sans eux. Pas de paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a profité de la tribune de Munich pour lancer un avertissement aux États-Unis.
Le président Poutine a déclaré qu'il était prêt à rencontrer les dirigeants ukrainiens. Mais à quelles conditions ? Il lui appartient de montrer qu'il a renoncé à son ambition de détruire l'Ukraine. Et je vais être très clair, affaiblir l'Ukraine affaiblirait l'Europe, mais aussi les États-Unis.
Le premier concerné a rappelé ses lignes rouges. Volodymyr Zelensky participait à une table ronde à Munich.
Ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est une position de principe sur laquelle nous ne reculerons jamais avec l'aide de nos amis d'Europe. Il est essentiel de ne pas perdre cette unité. Je suis si fier que nous fassions partie d'une Europe aussi forte.
Emmanuel Macron a aussi haussé le ton dans le Financial Times. Le président français met en garde contre une paix qui serait une capitulation. Les Européens tentent de relever la tête, mais sans de véritables alternatives concrètes au plan de Donald Trump.
Un plan qui ne serait pas prêt, critique Volodymyr Zelensky. Il estime que des négociations de paix sans Kiev et sans l'Europe seraient inacceptables et impensables. Des négociations, oui, mais pas avant que Kiev, Washington et leurs alliés adoptent une position commune, assure Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a rencontré J.D. Vance à Munich, le vice-président américain qui lui a réaffirmé la volonté des États-Unis de parvenir à une paix durable en Ukraine. Pourtant, lors de son discours devant les dirigeants européens, J.D. Vance a à peine effleuré la question, préférant donner une leçon de démocratie à son auditoire. La liberté d'expression est en retrait en Europe, un recul qui inquiète plus que la menace russe ou encore chinoise, a estimé le vice-président américain. Par ailleurs, cette rencontre très critiquée à une semaine d'élections législatives en Allemagne, rencontre entre J.D. Vance et Alice Weidel, chef de l'extrême droite allemande. Et pendant que l'avenir de l'Ukraine est suspendu à de possibles négociations, les armes ne se teste pas sur le champ de bataille. Sur le front Est, la situation s'améliore, assure Volodymyr Zelensky, notamment autour de la ville minière de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Pokrovsk, un verrou stratégique que le Kremlin tente de briser, mais aussi un point clé pour accéder aux ressources en lithium et en charbon de l'Ukraine, convoité par Donald Trump. Le point sur la situation sur le terrain avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.
Je pense pas que la situation s'améliore, mais elle n'empire pas en tout cas. Depuis plusieurs jours, les forces russes ne progressent plus, ou progressent de façon très très limitée. Moi, je regarde tous les jours l'évolution du front. Pour eux, ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que ça va tomber. Alors, le contournement par le sud est effectif. Il y a une route au nord-est qui l'approvisionne, qui a été coupé aussi, mais il n'y a pas de progression vers Pokrovsk même.
Le général Dominique Trinquant, joint par Lila Olkinyora. Le Hamas dit s'attendre à ce que les négociations de la deuxième phase de l'accord commencent en début de semaine prochaine. Elles se dérouleront à Doha, au Qatar, indique un responsable du mouvement islamiste palestinien. Côté israélien, on ne confirme pas l'information pour le moment. Cette deuxième phase de l'accord de trêve prévoit l'arrêt définitif de la guerre à Gaza Gaza et la libération de tous les otages. C'est d'ailleurs ce samedi que 3 d'entre eux doivent être relâchés en échange de 369 prisonniers palestiniens. Dans un communiqué sur X, l'armée libanaise promet d'agir avec fermeté et d'interpeller les auteurs de l'incendie. Réaction après qu'un véhicule des Nations Unies a été incendié près de l'aéroport de Beyrouth par des partisans du Hezbollah. La force de l'ONU au Liban dénonce un possible crime de guerre et demande aux autorités libanaises une enquête immédiate. Un officier a été blessé. La presse américaine parle d'une véritable purge dans l'administration fédérale. Les licenciements massifs des fonctionnaires promis par le président Trump ont commencé. Cela concerne environ 200 000 fonctionnaires. Il s'agit notamment de personnes en période d'essai à Himmelpold.
La mauvaise nouvelle est tombée par email ou vidéo pré-enregistrée. Certains employés n'ont eu que 30 minutes pour rassembler leurs affaires et quitter leur bureau. Le département des anciens combattants est le plus touché, avec plus de 1000 personnes en période d'essai limogées en une seule journée hier jeudi. On ignore encore combien des plus de 2 millions de fonctionnaires fédéraux seront concernés par cette vague de licenciements sans précédent. Le président Donald Trump veut une administration plus efficace, mais aussi éliminer ce qu'il qualifie de « deep state », c'est-à-dire l'état profond, ces fonctionnaires qui jugent déloyaux. Les licenciements sont brutaux, les lettres publiées dans la presse évoquent des compétences et performances jugées insuffisantes. Face à cette réduction drastique d'effectifs, la contestation monte. Après des actions syndicales, une dizaine de procureurs démocrates ont porté plainte hier devant un tribunal fédéral. Ils remettent en cause l'autorité d'Elon Musk et de sa commission Dodge à l'origine de cette offensive destinée à réduire les dépenses publiques.
Achim Lippold est dans le dossier de la guerre commerciale menée par Donald Trump. Le Brésil tient tête aux États-Unis. Le président Lula promet une réciprocité face à l'augmentation des droits de douane sur l'acier annoncée par Donald Trump. S'il taxe l'acier brésilien, nous allons taxer les produits américains et saisir l'Organisation mondiale du commerce, menace le président brésilien. Avec plus de 4 millions de tonnes d'acier exportées aux États-Unis l'année dernière, le Brésil est le deuxième fournisseur derrière le Canada. En France, le ministère de l'Éducation nationale demande au rectorat de Bordeaux d'inspecter l'établissement de Bétarame. Le collège-lycée catholique proche de Pau, dans le sud-ouest, est au cœur d'un scandale de violence et d'agression sexuelle sur des élèves. Scandale qui éclabousse le Premier ministre. Accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance des faits, François Bayrou était alors ministre de l'Éducation nationale lors des premiers signalements dans les années 90. Le Premier ministre doit rencontrer ce samedi à Pau le collectif des victimes de Bétarame. Après avoir décroché l'or de la Mastart l'an dernier, la biathlète Justine Brezaz-Boucher décroche son deuxième titre mondial individuel à Lenzerheide en Suisse. La Française s'est imposée à l'épreuve du sprint 7,5 km dans des conditions météo très difficiles. Et puis on termine ce journal avec une chanson accusée d'être un instrument de propagande russe, Sigma Boy. Près de 80 millions de vues sur YouTube inondent les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. C'est la présidente de la commission culture et éducation du Parlement européen qui tire la sonnette d'alarme. Elle accuse Sigma Boy de véhiculer une vision du monde toxique, patriarcale et pro-russe. Carlotta Morteo.
Rythme entêtant, ultra viral, Sigma Boy est l'œuvre de deux fillettes de 11 et 12 ans, Svetlana et Masha, drapées dans des fourrures roses et vertes. Dans un savant mix de russe et d'anglais, cette chanson, un peu trop sexuelle pour des préadolescentes, raconte grosso modo comment aguicher un Sigma Boy. Cette expression, popularisée par un suprémaciste américain, est censée décrire un homme solitaire, mystérieux, rebelle, mais non moins viril et puissant que son pendant opposé, le mâle alpha, extraverti et dominant. Cantonné pendant des années au blog masculiniste, le terme Sigma Boy s'est propagé au sein de la jeunesse occidentale grâce à cette chanson reprise dans des millions de vidéos TikTok où des stars de la K-pop et autres influenceurs partagent leurs petites chorégraphies sur Sigma Boy. Le centre ukrainien de lutte contre la désinformation a été le premier à alerter sur cette chanson qualifiée d'outil de propagande russe. C'est de la russophobie pathologique, se défendent les autorités russes, qui saluent le succès de cette chanson, symbole, je cite, de la puissance douce de la culture russe, le dernier tube du soft power du Kremlin.
Carlotta Morteo, service international d'RFI. Il est 1h10 à Paris. Tout de suite, retrouvez Claudie Ciard dans Couleur Tropicale. L'info continue sur notre site RFI.fr et les réseaux sociaux de RFI. Merci à vous d'avoir suivi cette édition.